c'est la technique néolibérale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, quand on a l'occasion, enfin la chance en fait, d'introduire une conférence de James Kenneth Galbraith, on est tenté de céder à la facilité de dire « on ne présente plus James Galbraith ». Et je crois que ce serait dommage parce que, en présentant James Galbraith, on peut lui poser quelques questions déjà et s'intéresser par avance à l'exposé qu'il va nous présenter. La première raison pour l'introduire, c'est de dire qu'il est économiste, qu'il est en fait professeur d'économie, Austin University, Texas, et ça pose une question, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les économistes n'ont plus à être présentés? Pourquoi est-ce que les économistes, en ce début du XXIe siècle, sont de notoriété mondiale, sont médiatisés? C'est une première question qu'on peut poser en écoutant tout à l'heure James Galbraith. La deuxième raison, je vais à l'essentiel, c'est qu'on a un économiste du temps de crise. Ses livres, nombreux, sont de ceux qui tentent de donner du sens à cette crise, la nôtre, depuis 2009. Pourquoi est-ce que la gauche devrait sortir du marché libre? Modeste proposition en 2014 pour résoudre, rien que ça, la crise de la zone euro, écrit avec Yanis Varoufakis. Et puis, tout récemment, ce livre qui sera d'ailleurs à sa signature tout à l'heure sur le stand du Seuil, « La grande crise, comment en sortir autrement ?» Et je crois qu'avec cette approche de la crise, cette autre approche, cette approche hétérodoxe, comme on dit aux États-Unis, pour traduire hétérodoxe, une approche libérale, mais au sens américain du terme, ça veut dire de gauche, on a là aussi une deuxième bonne raison d'écouter attentivement ce que va nous dire James Galbraith. Puis il y a une troisième raison qui est moins évidente, peut-être moins connue, peut-être que vous n'en parlerez pas, mais nous le savons quand même, c'est que vous jouez un rôle, alors il faudrait qualifier peut-être d'acteur discret, de conseiller engagé auprès des hommes et des femmes politiques qui aujourd'hui sont confrontés à la crise économique. Et je crois que votre expérience, notamment à Athènes, depuis janvier 2014 jusqu'à juillet, un certain juillet 2015, constitue de ce point de vue une expérience qui fait que nous allons vous écouter aussi avec beaucoup d'intérêt à présent. James, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Et je vous remercie. Vous aurez pu aller écouter Monsieur le Président Chirac. Vous aurez pu aller écouter Monsieur Jacques Attali, mais vous êtes ici. Je vais commencer, comme tout le monde, pour parler des empires. Et surtout de l'empire américain. Vous savez, tout le monde sait qu'après l'échec de l'expédition française contre l'insurrection de Toussaint Louverture à Saint-Domingue, Napoléon est réputé d'avoir expostulé le soir du 11 janvier 1803. Maudit sucre, maudit café, maudite colonie. C'était une expression avant la lettre d'un principe économique de nos jours, que depuis un demi-siècle, le bilan économique des colonies et des empires devient nettement non rentable. Et il faut poser la question, pourquoi? Alors, je vais vous raconter une histoire. Vers la fin de 2004, le général américain Ricardo Sanchez, qui était à l'époque le chef des forces militaires de la coalition en Irak, est venu donner un discours à l'Université de Texas, à Austin, dont il fut diplômé 35 ans auparavant. Parmi les autres professeurs de mon petit collège des affaires publiques, j'étais invité et j'ai accepté l'invitation de prendre le déjeuner avec lui. Et on était en cercle, on posait des questions tour par tour et j'ai trouvé que mes collègues, des professeurs extrêmement gentils, extrêmement polis, n'avait pas le courage de prononcer le mot Irak. Alors, à mon tour, je lui ai dit, général, j'ai toujours pensé que l'Irak, j'ai toujours craint que l'Irak ne prouve indigestible. Et je m'inquiète d'écouter une opinion contraire s'il en existe. Il m'a regardé, mais alors, quelle est votre question? Je poursuis. Est-ce que nous entraînons des forces de sécurité efficaces qui ne sont pas kurdes? Ah bien oui, il répond. Nous entraînons 3 divisions des chiites, aussi 3 divisions des kurdes. Puis il s'arrête un instant. Ce mot « efficace », dit-il, c'est un terme relatif. Alors, plusieurs semaines plus tard, je reçois d'un certain lieutenant-colonel inconnu de moi une invitation. Le lieutenant-général Sanchez vous invite en Allemagne, discuter pendant 2 jours, en février 2005, avec les officiers du 5e corps de l'armée américaine, les conditions opérationnelles en Irak. Moi, je suis en uniforme, moi, maintenant. Hein. J'ai jamais été militaire, je n'ai aucune connaissance du Moyen-Orient. Mais j'ai accepté, bien sûr. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Hein. Alors, quoi dire? J'ai décidé de poser une question très générale, celle que je viens de poser tout à l'heure. Pourquoi les occupations, voire les empires, avaient-elles réussi largement pendant un siècle, après, disons, 1840, c'est-à-dire la phase moderne des empires, celle de la Grande-Bretagne, aux Indes, de la France, en Afrique, l'expansion territoriale des États-Unis? Et pourquoi est-ce qu'elles sont arrivées sans exception à l'échec après 1950? Et je leur ai formulé 4 ou 5 hypothèses. D'abord, l'urbanisation, ce qui réduit la mobilité des forces militaires et favorise les forces indigènes, la résistance. Une résistance qui est détruite assez facilement dans les champs ouverts et dans les villages. Mais qui devient à peu près indestructible dans les grandes villes. Deuxièmement, la technologie militaire, surtout question des explosifs modernes, c'est très peu cher, très efficace, qui pénètre les défenses métalliques et qui rendent vulnérables tous les équipages. Donc, la supériorité d'une armée en route est nettement diminuée telle qu'elle se trouve dans une situation stationnaire et une occupation. Mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi le fait que l'organisation militaire a changé. Et le personnel qui, il y a un siècle, restait sur place pendant des années et des années, ne le fait plus. On est là pendant une année, puis on part, ce qui empêche les relations de confiance entre les représentants de l'Empire et les indigènes. Ce qui a des conséquences pour, par exemple, l'intelligence sur les questions internes et politiques dans les régions occupées. Point quatrième, que les médias et les normes sociales ont tendance de nos jours à limiter le recours à la terreur. L'utilisation de la terreur pour la résistance active est limitée par les normes. Les massacres, le génocide ne sont plus à la mode. C'était des outils indispensables pour maintenir les empires il y a deux siècles, hein, aux Indes, en Afrique, ailleurs. Mais maintenant, on s'en sert toujours, mais beaucoup moins. Et finalement, un facteur psychologique, un facteur déterminé par la situation légale internationale, c'est que la population indigène s'est accoutumée à croire que la présence étrangère ne peut qu'être de courte durée, de quelques années tout au plus, une décennie ou deux, exceptionnellement. Donc, ceux qui se mettent sur la voie de la coopération doivent forcément considérer les conséquences personnelles éventuelles. Et ça limite la coopération entre l'administration locale et les puissances étrangères. Alors voilà, c'était des idées que j'ai présentées aux militaires. Mes auditeurs étaient une trentaine de colonels, 4 ou 5 généraux, de l'armée, on peut dire, impériale américaine, en Irak, qui avaient été là pendant 14 mois, et qui avaient 14 mois d'expérience pratique. Quelle était leur réaction? J'ai reçu après une vingtaine de messages personnels d'appréciation, surtout des colonels, qui se préparaient pour aller pour un deuxième tour en Irak. Pendant le séminaire même, il y avait une discussion amicale, très animée. Et je me souviens surtout d'une question que m'a posée le général qui était venu en direct du Pentagone. Il m'a dit, si vous étiez conseiller auprès du président Bush, qu'est-ce que vous lui conseillerez au sujet d'une retraite éventuelle des forces américaines en Irak? Je lui ai dit, mais monsieur le général, je ne suis jamais considéré comme un conseiller possible du président Bush. Mais on a discuté la question. Était évidemment même après une année que les professionnels ne comptaient pas rester trop longtemps. Ils savaient très bien que c'était une situation impossible à la long terme. Et je crois qu'en effet, c'est forcément une question économique. Pendant un certain temps, les bénéfices de l'Empire étaient nettement supérieurs aux coûts. Il y avait surtout des ressources, mais aussi des marchés, et une possibilité d'administration assez paisible pendant longtemps. Ce n'est plus le cas. Et je crois qu'on peut dire la même chose à peu près sur la grande majorité des interventions militaires et dans les conditions de combat actuelles. Les pertes sont plus chères, les gains sont plus petits. Ce n'est pas à cause d'une moralité supérieure ou des idées plus avancées. Nous sommes comme les autres. Nous sommes comme nos prédécesseurs, mais nous sommes face à des conditions nettement différentes. Ça veut dire que l'ère de l'hégémonie globale, en effet, l'ère que quelqu'un considérait la possibilité d'une hyperpuissance dominante et bénin après la guerre froide n'a jamais débuté et elle n'arrivera pas. Alors, avec quelles conséquences ? Avec quelles conséquences économiques, surtout des conséquences assez subtiles pour le climat des investissements, les incertitudes qui pèsent sur les projets à longue durée et à l'échelle globale. Ce qui veut dire que nous ne construirons pas les infrastructures à l'échelle globale telles qu'on faisait il y a 50 ans avec confiance. Ce serait plutôt les projets à portée régionale, à portée dans un domaine plus simple, plus sécur, qui vont être favorisés. C'est peut-être pas un effet très fort, mais je crois que c'est un des changements importants qui vont définir notre époque. Il y en a d'autres. J'en ai parlé dans mon livre « La grande crise » pour vous expliquer pourquoi je considère que nous sommes arrivés dans une ère de croissance plus lente et des ambitions plus restreintes qu'auparavant. Les trois autres grandes raisons, les grands thèmes de ce livre, c'est le coût des ressources, et surtout l'instabilité dans les marchés des ressources qui sont financiarisés et qui ont donc une tendance pour les prix de devenir très instables. Ça limite les investissements d'un côté dans les projets qui consomment les ressources et ensuite aussi dans les projets pour les remplacer, surtout sur le plan d'énergie renouvelable. Deuxièmement, il y a la révolution numérique, les technologies. Informatique qui, je considère, limite la possibilité des emplois dans le secteur rentable parce que pour les entreprises, il y a toujours, surtout dans les pays où le système d'impôts favorise les investissements dans la technologie, tel que le cas partout, mais surtout aux États-Unis, qu'il y a nettement moins de croissance de l'emploi après la crise quand même. Donc les gens sont obligés de prendre la retraite, de passer leur temps dans les festivals tels que celui-ci. Mais il faudrait créer des institutions pour l'emploi, pour réduire le chômage. Et on ne peut pas compter sur le secteur privé pour faire ça, parce que le secteur privé, il a des alternatives importantes. Et troisièmement, et finalement, troisième grande raison, c'est la condition actuelle du système financier mondial, surtout après la destruction de confiance dans le système financier américain après la crise des subprimes, de subprimes, c'est-à-dire une vague de fraude financière sans précédent. Il y avait des précédents, mais pas à cette échelle-là. Il y avait the John Law. Dès que vous avez un système financier qui se fonce dans des crimes pareils, et vous avez un système de justice qui ne poursuit pas les banquiers frauduleux, vous avez forcément une perte de confiance dans ce système-là, forcément une retraite vers la liquidité et la solidité des dettes d'État, des bons de trésor américains, français, allemands, britanniques. Et ceci aussi a une rôle importante en déclenchant la crise financière en Europe, c'est-à-dire la retraite des bons de trésor grecs, espagnols, irlandais, portugais. C'est une réorientation des investissements financiers envers la sécurité après la crise. Ce n'est pas forcément seulement les conditions dans les pays variés qui ont fait ça. Et nous vivons avec, depuis 5 ans, bien qu'aux États-Unis, les institutions ont pour la plupart tenu et nous avons eu une croissance légère. En Europe, effectivement, ce n'est pas le cas. Et certainement pas dans les pays périphériques de l'Europe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes dans une situation différente. Pendant toute ma vie professionnelle, pour les économistes, la solution était très facile. C'était la croissance. La croissance rapide, la rentabilité forte et l'emploi le plein emploi, en effet, une possibilité qu'on a vue aux États-Unis pendant 3 ou 4 ans, depuis 30 ans, et en Europe, pas du tout. Alors, il y en a qui disent, comme conséquence, qu'il faut détruire, il faut démanteler l'État-providence. Qu'on ne peut plus se payer la sécurité sociale, les assurances santé, les assurances chômage, les assistances nourriture, l'enseignement public. Que ce sont des luxes pour la société de nos jours. Je crois que c'est une idée qui n'a aucun mérite économique. En vérité, quand vous regardez l'histoire, l'État-providence, ce n'est pas un effet de luxe. C'était à la base de la construction de notre société moderne depuis les années 30, depuis les années de la dépression la plus profonde. Aux États-Unis, le système de Social Security, sécurité sociale, a été créé en 1935. Le salaire minimum, également 1935. Les droits de travail, également. C'était à partir les dépôts sur les assurances sur les dépôts dans les banques, c'était 1933. C'était à partir de ces institutions-là que la société moderne a été créée. Et en Europe, c'était au moment de la destruction la plus profonde de la période après-guerre immédiate qu'on a fait ça. Alors, si vous détruisez ces institutions, vous faites comme monsieur le secrétaire Morgenthau voulait faire en Allemagne en 1945, c'est-à-dire la pasteurisation de la société, et la société ne tiendra pas. Une société moderne ne fonctionne pas sans industrie, elle ne fonctionne pas sans assurance sociale et l'État-providence. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le contraire. C'est d'assurer que les gens ont une sécurité suffisante pour qu'ils puissent prendre des risques à l'échelle, à la moyenne, à la petite échelle, à l'échelle moyenne, pour construire dans leur communauté une vie économique suffisante et un niveau de vie qui permet à la société et aux individus d'être heureux. C'est ça qu'il faut viser. C'est pas difficile à considérer comment faire. Mais pour faire ça, ce qu'il faut d'abord, c'est se libérer des idées fausses, des idées d'une autre époque, d'une autre ère, que nous laisse ce tribut très étrange, très curieux des économistes. Je vous remercie et je suis prête à toute question. Hein.